Merci encore pour votre accueil, très apprécié. Vous allez bien? Ce matin, je vais apporter le titre du message sera « Je suis la résurrection et la vie ». Et quand on pense à ça, la vie, hein, quelle beauté, que de mystère. C'est sûr que la vie, des fois, elle nous envoie des embûches. Mais les matins, quand j'ai l'opportunité de marcher dans la nature que Dieu a créée, ben, je ne peux pas m'empêcher de dire merci. C'est vrai que la vie, des fois, elle est difficile, mais la vie, c'est beau. C'est toute une affaire, la vie. Et je pense qu'on prend la vie pour acquis, des fois, hein? La vie sous toutes ses formes. La synergie entre tout ce que Dieu a créé. Hey, ça marche tout seul. Puis, quand on marche souvent dehors, à l'extérieur, moi, ce que j'ai remarqué, je méditais là-dessus quelques semaines passées, je me disais, hey, que c'est bien fait, hein? T'arrives, les petites fraises sortent. Après ça, oups, les framboises. Après ça, oups, les bleuets. Après ça, oups, les cerises, oups, les prunes. Après ça, dans le jardin, la laitue, les radis, les oignons. Après ça, les gros légumes. Comment ça se fait que ça ne pousse pas tout en même temps? C'est bien fait. Ça se fait tout seul. On a juste à récolter et manger. Et je pense qu'on a besoin, comme peuple de Dieu, comme société, à se rappeler toute la révélation de Dieu dans sa création. Oui, c'est vrai, Dieu se révèle par la parole de Dieu, mais la Bible nous dit aussi qu'il se révèle dans toute sa gloire dans la création. Et on a besoin de prendre ce temps pour aller sentir les fleurs, pour se promener sur le bord de la rivière, de voir les canards atterrir. L'automne qui arrive, on va entendre les outardes qui décollent. Printemps prochain, ils vont revenir. Tout ça, ça marche tout seul. On n'a rien besoin de faire, puis ça se fait. Comme c'est beau, la vie, hein? La vie, c'est miraculeux. C'est miraculeux et fragile parce qu'on tient juste à un souffle et on est juste une vapeur qui paraît pour peu de temps puis ensuite disparaît. C'est là l'importance de connaître la source de la vie, de même que de connaître notre destinée avant que notre « best before date » arrive. Vous savez, c'est quoi la « best before date » La date de péremption. Donc, c'est important de savoir ça. C'est exactement ce que Jésus tente de révéler à son auditoire lorsqu'il a déclaré dans Jean 11, 25, on va le lire ensemble, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, qui a été révélée, qui s'est rendue jusqu'à nous en 2025. Merci qu'elle est encore et toujours inspirée du Saint-Esprit, qu'elle est encore efficace et suffisante. Et ce matin, Seigneur, je veux t'élever, Seigneur, les personnes dans ce lieu, Seigneur Dieu, qui ont besoin de vie dans leur corps, vie dans leur âme, vie dans leur couple, vie dans leurs problèmes. Je te prie également pour Élise ce matin, qu'on m'a demandé de prier pour elle. Je l'élève, Seigneur, devant ton trône de grâce, afin que tu la touches et que tu insouffles la vie en elle, Seigneur. Je te prie pour mon épouse Francine, Seigneur, qui n'est pas ici ce matin, que tu puisses la bénir, Seigneur Dieu, la fortifier, l'encourager, souffler la vie dans son corps, que toutes les cellules de son corps puissent s'aligner avec la volonté parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple assemblé dans ce lieu, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste la vie, Seigneur, et que le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tout nom, roi des rois et Seigneur des seigneurs, soit glorifié ce matin. Et tous ont dit... Amen. Et comme on l'a vu lors des messages précédents, pas le dernier, mais quelques-uns que j'avais faits avant, Jésus passe beaucoup de temps avec le peuple afin de révéler qui il est, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, à la fois homme et Dieu, Messie, envoyé par le Père pour rétablir la relation entre l'homme et son Créateur. Et pour que son auditoire le comprenne, Jésus fait toujours suivre ses déclarations par des gestes concrets. Il vient appuyer ce qu'il dit par un geste concret. Lorsqu'il se présente comme le pain de vie, comme seule nourriture spirituelle qui donne la vie, qui maintient la vie, et Jésus, à la suite d'une visite au temple, où se déroulaient les célébrations de la fête des tabernacles, alors que le temple brillait d'une lumière éclairante, il déclare « Je suis la lumière du monde » et après avoir fait cette déclaration qu'il est la lumière du monde, pour baquer ce qu'il vient de dire, il donne la vue à un aveugle. Il fait voir à un aveugle la lumière qu'il n'avait jamais vu. Et encore aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul qui peut donner la vue à un aveugle spirituel. Encore aujourd'hui, les écailles de nos yeux qui recouvrent les yeux des hommes et des femmes, nous sommes aveugles spirituellement de naissance, peuvent tomber afin de voir et de comprendre les choses de Dieu. La semaine dernière, j'étais à l'église d'Amqui et j'ai rencontré un homme de 80 ans qui visitait l'église et il me disait comment toute sa vie il a rejeté Dieu. Et alors que son épouse, au mois de juillet, est décédée, finalement, il a réalisé qu'il avait une date d'expiration et il a donné son cœur à Jésus-Christ. À l'âge de 80 ans, il a vu ce qu'il avait rejeté toute sa vie. Et comme Jésus l'a déclaré, « Je suis venu pour que ceux qui ne voient point puissent voir. » Après avoir redonné la vue à cet homme aveugle de naissance, à cet homme rejeté par les hommes religieux de l'époque, Jésus se présente ensuite à cet même homme comme la seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour baquer cette déclaration, Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et l'aveugle de répondre « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui, ayant reconnu la porte du ciel en Jésus-Christ. Voilà la porte du ciel. Crois au Fils de Dieu. Crois que Jésus est pain de vie, lumière du monde, le seul qui peut donner la vue spirituelle, la seule porte qui mène au ciel. Jésus déclare, « Je suis le pain de vie, je suis lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger. » Et toutes ces révélations de Jésus ont pour seul et unique but de se révéler à l'homme et à la femme. Se révéler en nous étant comme étant suffisant pour tous les besoins de notre vie. Il est ma nourriture spirituelle. Il est mon salut. Il est ma porte qui me donne accès auprès du Père. Il est le bon berger qui prend soin de moi, même quand des fois la vie est difficile, même quand la maladie frappe à la porte. Il est le bon berger qui prend soin de moi et de toi. Il est mon roc. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Il est celui en qui je peux me confier. Mais il y a un problème majeur pour l'homme. C'est que l'homme est mortel. Nous sommes mortels. Le taux de mortalité chez l'être humain est de 100%. L'homme et la femme ont été expulsés du jardin afin de pouvoir manger du fruit de l'arbre de la vie. Et un décret a été prononcé de la part de Dieu limitant la durée de notre pèlerinage sur terre. Et à cela, je dis heureusement qu'il le fait avant que l'homme mange le fruit de l'arbre de la vie, parce qu'on serait des créatures éternellement pécheresses. Vous imaginez un autre 100 ans, un autre 1000 ans, la manière que l'humanité voit maintenant? Nous savons que chaque seconde qui passe, chaque tic-toc de plus est un tic-toc de moins à vivre ici-bas. Et pour les jeunes, tic-toc, c'est le bruit du temps qui passe avant d'être une application où le temps se perd. Nous sommes mortels, mais gloire à Dieu, Jésus déclare, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il ajoute, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Toutes les beautés de la vie que j'ai mentionnées en introduction, imaginez cela dans sa pure beauté éternellement. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais hier, on marchait, on était sur le bord du fleuve à Rimouski, puis il y avait un beau petit vent, la chaleur était parfaite, le paysage était excellent. Puis là, je disais à Francine, c'est de valeur qu'on n'a pas un bouton pour arrêter ça là. On est bien, là. Il fait beau, là. On va arrêter ça là. Mais dans l'éternité, ça va être comme ça. Il va faire beau, on va être bien, puis ça va être pour tout le temps. Ça vous donne-tu un espoir? Je suis la résurrection et la vie. D'où l'importance de la fête qu'on souligne chaque année, de la fête de Pâques, parce que de nos jours, des millions de chrétiens soulignent, célèbrent sans aucune obligation légale ou contrainte cet événement qui, pour les chrétiens, souligne la mort et la résurrection de Jésus. Mais en fait, pourquoi célébrer la mort de Jésus? Pourquoi célébrer la mort? Pourquoi prendre la Sainte-Seine, la communion, de façon régulière pour se rappeler de sa mort? Pourtant, des milliards de personnes sont mortes depuis la présence de l'homme sur la terre, et à ce que je sache, on ne fait pas de fête pour les morts, pour les autres morts. Oui, mais Jésus est ressuscité, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Et personnellement, j'ai jamais été témoin d'une résurrection, mais j'ai déjà entendu des récits de personnes qui se disaient avoir été témoins de résurrection. De plus, la Bible nous parle de plusieurs autres personnes qui sont ressuscitées. Hein? Dans le livre des Rois, Élie, avec la veuve de Sérépar, le Seigneur entendit la prière d'Élie et le souffle de l'enfant qui était mort revint en lui. Il est ressuscité. Encore dans le livre des Rois, la femme Tsunamite, Élisée implore le Seigneur de lui accorder un fils, il lui accorde son fils, il meurt, il se mit à prier le Seigneur et l'enfant éternua 7 fois et il ressuscita. L'évangile de Luc rapporte que Jésus passait par la ville de Naïm, il voit une mère veuve enterrer son fils. Voyant celle-ci, le Seigneur lui saisit de compassion, il lui dit « ne pleure pas », il s'approcha de elle, la toucha et elle se leva. Jaïrus, le chef de la synagogue, qui vient supplier Jésus de sauver sa fille mourante. Et lorsque Jésus arriva à elle, il lui dit, « Mon enfant, éveille-toi, l'esprit lui revint. » Et sans doute, le plus connu des ressuscités de la Bible, Lazare de Béthanie, le frère de Marthe et Marie, c'est Jésus lui-même qui le rappelle à la vie 4 jours après sa mort. Il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors! » Pourtant, on ne célèbre pas les autres morts, on ne célèbre pas ces résurrections. Alors, pourquoi célébrer chaque année, chaque communion que l'on prend, souligner la mort et la résurrection de Jésus? Eh bien, c'est parce que la mort et la résurrection de Jésus et les événements autour de sa mort et sa résurrection sont uniques en leur genre et ils ont une portée éternelle. La mort et la résurrection de Jésus ont un impact sur la destinée éternelle de toute femme et tout homme qui fait, qui font et qui feront un pèlerinage sur cette terre. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que la mort de Jésus se distingue de toute autre mort. Lors de sa crucifixion, dès qu'il eut prononcé ses paroles, tout est accompli. Il voulait dire que tous les moindres détails de la loi avaient été accomplis par Jésus. Ça faisait de lui le deuxième Adam. Mais contrairement au premier Adam, il n'a jamais failli en rien. Il est un agneau pur et sans tache, et toute la création a réagi à cette mort. Le soleil s'est assemblé en plein après-midi lorsqu'ils ont vu la lumière du monde s'éteindre. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas, mettant ainsi fin à la séparation entre Dieu et l'homme. La communion avec le Père est redevenue possible. Fini les sacrifices. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, beaucoup de corps des saints ressuscitèrent, ils entrèrent dans la ville, ils ont apparu à plusieurs. Le châtiment qui donne la paix aux hommes est tombé sur lui. Le pouvoir de la mort, du péché sur l'humanité a été anéanti. Et la justice de Dieu a été satisfaite par la mort de Christ. Le pouvoir de la mort et du péché a été anéanti. C'est pourquoi Paul nous dit, « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ton dard de venin? » Deuxièmement, tout comme sa naissance a été annoncée d'avance, la mort de Jésus a été annoncée d'avance. Le psaume 22, qui a été écrit des siècles auparavant, nous dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et éloignes-tu sans me secourir, sans écouler mes plaintes? » Et Jésus, dans Matthieu 27, a rapporté ces mêmes paroles. Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans le psaume 22, le verset 7, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouant la tête. » Et dans Matthieu 27, Jésus a dit, « Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. » Dans le psaume 22, « Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Et c'est exactement les paroles que Jésus a prononcées. Troisièmement, sa mort nous donne le moyen d'éviter le jugement de Dieu que le péché mérite et fait en sorte que la justice de Dieu est accomplie. Le fait que Jésus soit mort lors de la Pâque juive, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu, dans sa grande sagesse, a choisi cette fête pour concrétiser spirituellement ce que son peuple, à sa sortie d'Égypte, a vécu dans l'histoire, c'est-à-dire une délivrance. Je m'explique dans Exode 12. Quand son peuple vivait dans l'esclavage, Dieu donnait des instructions à son peuple de prendre un agneau pur, sans tache, un agneau sans défaut, un mâle, de prendre de ce sang, de le mettre sur le poteau et sur le linteau de la porte. Et lorsque Dieu exercerait son jugement, il verrait le sang et passerait par-dessus ces portes qui sont recouvertes de sang. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et j'aimerais te suggérer ce matin que si tu veux éviter la colère de Dieu à venir, lors du jugement dernier, la recette n'a pas changé. On doit faire appel au sang. Appliquer ce sang de Christ sur les poteaux de notre cœur. Appliquer ce sang sur mon âme, sur ma vie, sur mon péché, afin qu'il soit lavé, pardonné, blotted out, gone, fini. Mais pas n'importe quel sang. Le sang d'un agneau pur et sans tache. Et cet agneau pur et sans tache, c'est Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est un agneau pur, sans tache, sacrifié pour le pardon de mes péchés, de tes péchés. 1 Pierre 1,18 nous dit cela, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous, à cause de moi. » À cause de toi. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que j'aurais été mieux que les soldats romains? Est-ce que j'aurais été mieux que Pierre? L'aurais-je renié 3 fois? Peut-être 10? Il est un agneau choisi par le souverain sacrificateur, tel que la loi l'exigeait. La loi exigeait que l'agneau soit choisi par le souverain sacrificateur. Et dans le récit de la résurrection de Lazare, alors que Jésus, après avoir déclaré à son auditoire, « Je suis la résurrection et la vie », Jésus cria, « Lazare, sors ! » On va la lire ensemble, Jean 11, Verset 44, « Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, et ça c'est important, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il choisissait ainsi, ça c'est mes paroles à moi, l'agneau pascal. Et c'est lui qui avait l'autorité de choisir l'agneau pascal. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. En lisant le récit de la mort de Lazare, on constate que cette résurrection de Lazare était préplanifiée par Dieu pour valider le « je suis » la résurrection et la vie. Et c'était également l'élément déclencheur qui allait mener à sa mort, à la mort de l'agneau pascal, à la mort de l'agneau de Dieu pur, sans tache, choisi par le souverain sacrificateur Caïphe. Finalement, le jour arrive, Jésus-Christ, l'agneau pur et sans tache, fut sacrifié. Jour fatidique, mais annoncé d'avance. Et on le voit annoncé dans Ésaïe 53, 4 et 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, oubliez Jésus, les cheveux frisés et les yeux bleus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et c'est le problème de notre société aujourd'hui. Chacun veut suivre sa propre voie. Et malheureusement, souvent, c'est le problème dans l'Église. Chacun veut suivre sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Comme tous ceux qui mirent du sang sur le linteau de leur porte furent épargnés du jugement de Dieu, la justice de Dieu fut accomplie sur ceux qui n'obéirent pas à la consigne de Dieu, qui ont perdu leur premier-né. De même, bien que ceux qui mettent leur confiance dans le sang de Christ versé de l'agneau de Dieu, pur, sans tache, on est exempté du jugement. La justice de Dieu est accomplie quand même parce que Dieu fit retomber sur son propre Fils, Jésus, la pénalité, le jugement que mon péché mérite. Et juste cela devrait être suffisant pour nous voir danser, crier « Alléluia ». Juste cela, c'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est que Christ est mort pour nos péchés et en retour, on lui doit toute notre reconnaissance parce que nous sommes destinés à une vie glorieuse parce qu'il a pris sur lui ma faute, ma condamnation, mon péché. Finalement, la mort et la résurrection de Jésus est différente des autres dans le fait que tous ceux qui ont connu la mort et la résurrection ont expérimenté par la suite la mort, alors que Jésus-Christ, lui, est parti avec son corps glorifié. Il n'est pas mort une deuxième fois. Et je n'ai rien contre prêcher pour la guérison, la résurrection, mais l'essentiel de l'Évangile, c'est Christ mort pour nos péchés, qui nous donne la vie éternelle. Parce que si on prêche seulement que la guérison et que les gens sont guéris, mais qu'ils ne reçoivent pas Christ comme leur sauveur, à quoi bon? À quoi bon? Voilà pourquoi nous célébrons la mort de Jésus. On célèbre la mort de Jésus parce que son sang versé pour le pardon des péchés, si appliqué sur notre péché et confessé, efface mon péché. Et pas juste mes péchés passés, mes futurs aussi. Je n'ai pas besoin de marcher dans la condamnation. Christ m'a pas... Oh, je ne fais pas exprès, mais je ne suis pas obligé de marcher dans la condamnation parce que Christ a payé pour mes péchés. Et même les péchés que je commets par inadvertance, sans faire exprès. 2 Colossiens 2, 13, 15 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En d'autres mots, il y avait un acte écrit contre nous qui nous condamnait. Et Christ a pris cet acte et il l'a cloué à la croix. Et ce qui nous condamnait est maintenant effacé. Le péché est ce qui empêche l'homme de vivre éternellement. Mais si Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si tout est accompli, si la dette est payée, si le péché est pardonné, si Christ est ressuscité d'entre les morts, la vie éternelle redevient possible. Maintenant que le péché nous a enlevé la possibilité de vivre éternellement, a été jugé, cloué la croix, la possibilité pour l'homme de vivre éternellement est redevenue possible. Et cela nous est démontré par la résurrection de Jésus qui a vaincu la mort. La résurrection de Jésus se distingue de toutes les autres résurrections. Premièrement, elle n'est pas une invention des disciples post-mortem. La résurrection de Jésus est un fait historique pour lequel les apôtres étaient prêts à mourir. Il est apparu pendant 40 jours à plus de 500 personnes. Ils ne sont pas morts pour des croyances, ils sont morts pour ce qu'ils ont vu. Sa résurrection, c'est le couronnement de sa mission sur terre. Par la résurrection de Jésus, la mort fut vaincue. Elle est la pierre, cette résurrection, elle est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Ça ne vaut plus rien. Mais si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et j'ai par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 12 et suivant. Elle nous procure l'assurance d'une vie après la vie. Et ce matin, dans mes conversations avec plusieurs d'entre vous, le mot qui revenait souvent, c'est « tout est passager ». Tout est passager. Mais la vie, elle est éternelle. Grâce à sa résurrection, nous ne sommes pas condamnés à finir comme du manure, du simple fertilisant, à retenir à la terre de la poussière. La résurrection de Jésus déclare haut et fort qu'après la mort de notre corps, nous ressusciterons, car nous sommes tous des êtres éternels. Oui, mais pas tous iront au ciel. Daniel 12:2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, mais les autres pour l'opprobre et la mort éternelle. » Et ça, c'est tragique. Et on a perdu focus de cette réalité que des gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ vont passer l'éternité dans la souffrance éternelle. Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et moi, je ne veux pas être un bouc. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu être gaucher. Je préfère être droitier. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Oh, que j'ai hâte d'entendre ces paroles! Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les gauchers, ceux qui n'ont pas accepté Christ, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. » qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Acte 24, 14 nous dit, « Je l'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Les justes et les injustes vont ressusciter. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ils vont ressusciter, mais tous ne vont pas à la même place. La résurrection de Jésus-Christ est la provision pour ceux qui ont mis leur confiance dans le sang de l'agneau, qui garantit que les croyants n'auront pas à subir la deuxième mort. Apocalypse 20, 14 et 16 nous dit cela. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus était le sujet principal de la prédication de l'Église primitive. Ils insistaient sur la résurrection de Christ pour faire comprendre aux gens qu'ils tous ressusciteront, mais que seuls ceux qui ont mis leur confiance en lui le retrouveront dans l'éternité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, déclarait-il. Vous avez fait mourir le prince de la vie, disait-il aux Juifs de l'époque, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il prêchait Christ ressuscité. Il prêchait afin que l'auditoire, quoique Christ croit que Christ a versé son sang pour le pardon des péchés, afin de redonner à l'homme la possibilité de vivre éternellement dans la présence du Dieu glorieux. Il prêchait Christ ressuscité comme évidence que Jésus a vaincu la mort et qu'en mettant sa foi en lui, on n'est pas à subir la deuxième mort. Acte 2, 24 nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. » Il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort parce que Jésus-Christ est résurrection et il est vie. Donc la mort ne pouvait pas vaincre Christ parce qu'il est vie. On parle que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est vie. Toute vie vient de lui. Il est source de tout ce qui vit. Il est la résurrection parce qu'il est premièrement la vie. Et tout comme la noirceur ne peut pas empêcher la lumière de briller, la mort ne peut pas vaincre la vie de Christ. Jésus-Christ est la vie. Il a la puissance pour créer toute chose à partir de rien. Il le prononce et cela s'accomplit, car il est la vie. Il ne tire sa vie de personne d'autre. Moi, je tire la vie, ma vie de mes parents. Mais Christ ne tire sa vie de personne d'autre. Il est. Il est la vie elle-même. La vie existe en lui. Il est vie. Et c'est pour ça, lorsqu'on regarde la vie, on regarde à Christ. Lorsqu'on regarde une tomate poussée qui est vivante, on regarde à Christ. Lorsqu'on voit un oiseau qui vole, on regarde à la Christ. À Christ qui a donné cette vie, qui a rendu cette vie possible. Et on doit être en admiration devant la beauté de la vie. Devant ce jardin qu'il nous a donné. Oui, il a été corrompu, oui, il est magané, mais dans son essence même, si on épluche tout ça, puis on enlève le bruit, TVA, Radio-Canada, les mauvaises nouvelles, Facebook, Instagram, puis on regarde la vie est belle. Telle est sa nature, il est vie éternelle. Tout ce qui existe dans le monde physique, tout ce qui existe dans le monde spirituel, c'est lui qui l'a créé. De la plus petite cellule à l'être humain le plus complexe, il a donné la vie à tout ce qui vit. Et l'Épître aux Colossiens le déclare, c'est parmi mes versets favoris, Colossiens 1:16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui. » Et pour lui. Toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Toute la vie, toute la création pointe vers Jésus-Christ. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est pas de la religion, c'est pas du brainwashing, c'est la réalité. Tout pointe vers Jésus-Christ. La mort, frères et sœurs, n'est pas la fin. La mort est une transition d'une fraction de seconde vers l'éternité. Et par sa mort et sa résurrection, la vie éternelle, en sa présence, nous est offerte gratuitement. You got nothing to do. Rien à faire. C'est pourquoi il est primordial pour tout homme, toute femme, de mettre sa foi dans la mort et dans la résurrection de Christ. Parce que de ne pas mettre sa confiance dans la mort et la résurrection de Jésus égale expérimenter la seconde mort. C'est-à-dire une vie éternelle loin de Dieu, loin de la lumière, une vie de tourment et de grincement de dents. La Bible nous dit, « Il a mis devant toi, devant moi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis Jésus-Christ, afin que tu vives. Toi, suis-moi. » Voilà l'appel de Jésus-Christ. Suis pas des doctrines, suis pas un prédicateur. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Jésus-Christ, toi suis la vie. La vie. Je suis la résurrection et la vie. Et je vous donne un devoir pour les semaines à venir. Prenez le temps, lorsque vous êtes à vos occupations, de contempler, d'admirer la vie. La création, parce qu'elle pointe vers Jésus-Christ. Et à vos amis qui disent « Merci la vie », ils n'ont pas tort d'une certaine manière, parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Sauf qu'ils ne l'ont pas encore réalisé. En conclusion, Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Encore une fois, il est passé de la parole aux actes. En démontrant sa puissance sur la mort, il a ressuscité Lazare, puis mort depuis 4 jours. Puis après avoir été offert comme agneau de Dieu, un agneau pur et sans tache pour le pardon de nos péchés, il est ressuscité. Il a démontré sa victoire pas seulement sur la mort de notre corps terrestre, mais également sa victoire sur la deuxième mort en ressuscitant lui-même le troisième jour, tel que rapporté par l'apôtre Paul qui nous raconte ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. » Moi, j'aime beaucoup l'humilité de Paul. Parce que bien qu'il eut une révélation sur le chemin de Damas, il se nomme avorton. Alors que nous, Dieu m'a montré... Oh! Moi, j'aime l'humilité. Je ressens dans mon cœur que ceci, est-ce que cela? Dieu m'a montré. Dieu m'a enseigné. Alors que Paul, dans l'humilité, il m'est apparu à moi comme un avorton. Il ne voulait aucune gloire pour lui-même. Et cela devrait être notre attitude face aux paroles, aux révélations, aux rêves, aux songes peut-être que Dieu nous révèle, de les recevoir avec beaucoup d'humilité et d'accepter que peut-être notre rêve, on l'a eu parce qu'on a trop mangé de pizza la veille, ça se peut. Ça pourrait être une révélation de Dieu, mais laisse les autres en juger peut-être. Gardons l'humilité. L'agneau de Dieu est mort et ressuscité, et par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie, la vie éternelle dans sa présence. Il nous rend justes. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et il est mort et ressuscité afin qu'on marche en nouveauté de vie. Non plus comme des condamnés, mais comme des pardonnés. Ce matin, j'ai une question pour toi. As-tu reconnu que toi, comme tout homme, toute femme, tu es pécheur, séparé de Dieu? As-tu saisi que le pardon de mon péché, de ton péché, est rendu possible seulement par la mort et la résurrection de Jésus? Réalises-tu ce matin que la résurrection de Jésus est ta garantie pour toi, de ta résurrection dans la présence du Dieu éternel? Et même si le nombre de tes années te font croire que peut-être la fin arrive, en réalité, ce n'est que le commencement qui arrive lorsque tu quittes ce corps, un commencement dans une éternité de félicité et de bonheur éternel dans la gloire de Dieu. Il y a une chanson des années 70, « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Hein? » Vous la connaissez tous, hein? Et je crois que cette crainte face à la mort qui est innée, naturelle dans tous, et je ne condamne personne, on l'a tous, est peut-être due au fait qu'on a été créé dans le fond pour vivre éternellement. Puis que le péché est venu foutre le bordel, puis qu'on a en nous cette pensée de l'éternité, puis là, il faut vivre cette séparation, puis on n'est pas confortable avec ça, on n'est pas sûr, mais nous pouvons avoir foi en Christ, ce Christ qui est mort et ressuscité, nous promet qu'il est parti nous faire une place. Allez, faites de toutes les nations des disciples, puis moi, pendant ce temps-là, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Puisqu'il est vérité, il ne peut pas mentir. Tout comme il est vie, il ne peut pas mourir. Il a dit que, je vous l'ai dit, je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vais revenir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Pour le chrétien, c'est tous les jours que nous devons nous rappeler l'immense grâce qu'il nous a accordée par la mort et la résurrection de Jésus. C'est tous les jours qu'on devrait se rappeler de cette phrase « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Dites-le avec moi. Je suis la résurrection et la vie. Quand ça va mal, je suis la résurrection et la vie. Quand ça va bien, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui a prononcé ces paroles ne peut mentir. Tout comme on n'a rien eu à faire pour recevoir notre vie sur terre. Nos parents ont tous fait le travail. De même, on n'a rien à faire pour obtenir la vie éternelle, à part de se repentir, de reconnaître que l'on est pécheur et de croire. Croire qu'il est mort et ressuscité pour moi, car notre Père a fait tout le travail. Les musiciens, vous avancez, s'il vous plaît. Seigneur,